le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin, Nathalie Barge, pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Diane Nininazwe, journaliste burundaise au service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique, qui a travaillé pour plusieurs stations de radio Burundi, notamment Bonesha FM, pendant 6 ans, spécialisée dans les questions de gouvernance, corruption, santé et environnement. Et en 2014, le magazine Made in Burundi l'a classée dans les 10 jeunes les plus influents du pays. Hein, vous avez 29 ans, Diane. Merci beaucoup d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée pour ces tribunes des femmes.
Alors, c'est pour une discussion sur la visibilité des femmes, justement, dans les médias. Les médias que nous sommes, on en fait partie, n'est-ce pas? Et on essaye de savoir si les femmes sont suffisamment sollicitées par les médias, si elles sont vraiment présentées au premier plan. Parce que c'est des questions que nous, forcément, en tant que femmes, l'on se pose, mais en plus de ça, nous-mêmes, à la Voix de l'Amérique, on a une politique de mettre en avant les femmes, parce que à la direction, on a remarqué que les femmes, à tout point de vue, n'étaient pas suffisamment mises en avant. Donc, on essaye un petit peu d'exercer cette forme de parité. J'aimerais bien savoir, Diane, vous, comment vous le vivez? Comment vous procédez, justement, dans votre travail pour pouvoir répondre à cette demande? Et nous le savons tous que c'est pas évident.
Alors, je dirais que c'est pas vraiment chose facile. Il y a une émission qui s'appelle Mulisanga, qui est une émission de toute une heure où on invite les auditeurs à réagir sur les différents sujets. Et d'un coup, les vendredis, chaque vendredi, on évoque des sujets des femmes. Mais rares sont les fois où on reçoit des invités des femmes, pas parce qu'on ne veut pas les inviter, mais parce que même si on les sollicite, des fois, ils ne sont pas là. Ou même, sur toute une antenne d'une heure, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut parler à des femmes? Mais des fois, on n'a pas des auditrices qui aimeraient réagir en tant que femme. En tout cas, moi, j'ai pas encore parlé à 4 ou 5 femmes, bientôt 2 ans que je suis ici à la Voix de l'Amérique, mais rares sont des fois où on reçoit des auditrices. Ça veut dire que c'est vrai, on les sollicite, mais des fois, pour des raisons, peut-être parce qu'elles sont occupées, pour des raisons familiales, à regarder des enfants, à s'occuper des enfants. Des fois, vraiment, ils ne répondent pas positivement à nos doléances. Voilà.
Donc ça, c'est intéressant parce que on remarque que dans la presse, on a un vieux réflexe, hein, pour ainsi dire, de contacter les contacts qu'on a déjà. On appelle les hommes en premier parce qu'il y a plus d'hommes. Et on a beaucoup plus rarement des femmes, par exemple, analystes. Et pourtant, elles existent, elles sont là. Elles sont bel et bien là, surtout sur l'Afrique. Et vous dites, en fait, que on a très souvent des réponses négatives. Et ça, c'est vrai, on l'a tous vérifié. Pour diverses raisons, le fait que très souvent, les femmes nous répondent « on n'est pas prête ». Alors qu'un homme, en général, saute sur l'opportunité. Il se pose pas la question de savoir s'il est prêt ou pas. Il y a quand même la question de la confiance dans tout ça, non?
Oui, la question de la confiance en soi, mais aussi pour moi qui viens de ce pays qu'est le Burundi. Je me rappelle, il y a plusieurs rapports de la presse, plusieurs rapports des associations, des médias, qui disaient que la femme n'était pas vraiment assez représentée, même dans différents médiums au Burundi. Si vraiment la femme n'est pas représentée, moi-même, je me sentirais très gênée si j'étais l'auditrice à réagir et que mes sujets étaient abordés par un homme. Il faut quand même qu'il y ait aussi une représentativité au sein des médias, qu'il y ait ces femmes qui sont assez nombreuses, qui traitent des sujets des femmes, parce que si la femme est en train de parler d'égal à égal avec une femme, je me dis qu'elle se sent mieux que parler avec les hommes. C'est vrai. D'un côté, elles sont un peu timides, mais d'un autre côté aussi, je crois que nous sommes en train de tendre petit à petit vers la résolution de ces problèmes si la femme était assez représentée dans des différents médias aussi, voilà.
Et on va voir effectivement si le fait qu'il y ait plus de femmes dans les médias veut dire qu'il y aurait plus de femmes qui serait donc mise à l'avant au niveau médiatique. Disons que l'un n'oblige pas l'autre, en quelque sorte. Hein. Mmh. Après, c'est une question de voir un petit peu comment on s'organise pour qu'effectivement, il y ait plus de femmes, de voix féminines qu'on entende à la radio, non pas seulement dans les journalistes, mais dans les intervenants.
Oui. C'est dans la presse.
Kamissa Camara, jeune femme de 35 ans et ministre des Affaires étrangères au Mali depuis le 9 septembre. En juillet dernier, elle avait été nommée conseillère diplomatique du président Ibrahim Boubacar Keïta. Kamissa Camara fait partie des 11 femmes sur 32 ministres qui composent le gouvernement du premier ministre Soumeilou Boubeimaïga, un nouveau ministère de la réforme de l'administration et de la transparence a été confié à une autre femme, Safia Boli. Plus de femmes dans les médias également, ça aussi ça fait partie hein, du défi en quelque sorte. Est-ce que cela implique pour autant, Diane, le fait que plus de femmes et plus ce réflexe d'appeler des femmes politiques, d'appeler des businesswomen, d'appeler des femmes de la société civile, etc. Parce que c'est un réflexe à avoir.
Alors ça c'est aussi notre problème, ces femmes politiques qu'on a. La plupart des fois c'est vrai, il y en a par exemple au Burundi, il y a au sein du parti Frodebou, où il y a Euphrasie Guilimana, on a eu aussi des femmes influentes au pays, Alice Nzomukunda, elle est maintenant présidente de l'ADR, partie ADR, elle fut aussi vice-présidente de la République du Burundi. Même si ces femmes sont là dans des différentes institutions, ça ne veut pas dire que des fois on saute dessus pour les appeler pour de telles réactions. Parce que de un, je dirais que même au sein de leurs différentes organisations, les hommes sont privilégiés. Laissons le dire. Il y a des fois où on dit, on veut aborder ce sujet, ils disent non. Mais quand même, c'est lui le porte-parole, il va s'exprimer par rapport à ce sujet. Donc, il y a beaucoup d'entraves par rapport à cette représentativité. Non seulement que la femme ne se fait pas battre assez pour cette place, mais aussi au sein de différentes organisations, il y a l'homme qui est toujours là, il y a l'homme qui veut s'exprimer, comme vous le disiez, qui saute toujours sur l'opportunité. Rares sont des fois où tu appelles un homme politique et tu lui dis, j'aimerais que tu réagisses par rapport à ce sujet et qu'il dit non. Il faut que d'abord, si c'est un sujet qui concerne les femmes, que j'appelle cette femme à réagir. Mais par contre, il y a des fois où on dit, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui peut vraiment s'exprimer à ce sujet? Ça concerne la femme. On aimerait qu'on ait des voix des femmes. Il dit non. Tu sais, même si ça concerne la femme, on est bien, on se sent bien à ce que... Il n'empêche pas que cet homme-là puisse s'exprimer. Mmh. Voilà, oui.
Mmh. Mais en fait, c'est un réflexe un petit peu, on va dire un petit peu machiste, non, de leur part. Parce que bon, si vous sollicitez une femme pour un sujet bien particulier, c'est une demande.
Oui.
La logique voudrait que ces personnes vous trouvent une femme quand même.
Oui,
non,
ça c'est
ça
vrai.
C'est la moindre des choses.
Oui, mais quand même, il faut aussi ne pas épargner la situation politique qui prévaut entre guillemets dans différents pays africains. Là, parlons aussi du Burundi. La crise depuis 2015, si les hommes sont exposés, qu'en est-il des femmes? Il y a aussi des femmes qui disent non, moi j'ai des enfants à garder quand même, je peux pas risquer ma vie à venir débattre sur les antennes, à deviner, alors que j'ai un petit de 4 ans, de 3 ans.
Parole de femme.
Peu de femmes se présentent aux élections dans la majorité des pays d'Afrique, à quelques exceptions près. Et celles qui osent franchir le pas sont généralement très peu médiatisées, qu'elles soient connues ou non. À qui la faute? Un élément de réponse dans cette interview avec Christelle Wanga, militante des droits des femmes en République démocratique du Congo, qui est candidate aux législatives de fin décembre.
Si je me suis présentée, c'est d'abord par rapport au vide que j'ai remarqué que la femme congolaise n'accédait pas trop aux fonctions, non seulement les fonctions nominatives, mais aussi à la députation. Même maintenant, les chiffres parlent. Sur 100% des candidatures, il n'y a que 11% des femmes. Et parmi ces 11%, 7% sont des suppléantes. Donc, on risquait d'avoir un parlement de 500 sièges avec 5 femmes. C'est vraiment honteux et nous militons. Nous parlons, nous sensibilisons. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. C'est un réel problème parce que la première fois quand j'ai dit que je serais candidate, la première question qu'on m'a posée, est-ce que je vais trouver les moyens? Mais en ce moment-là, moi, j'ai une autre réponse. On peut avoir les moyens financiers, mais si vous n'avez pas des hommes qui adhèrent à votre message, ça ne sert à rien. J'ai déjà parcouru 32 bases. Mais là, je n'ai rien dépensé en termes d'argent. C'est vrai que peut-être il y a des petits moyens à dépenser. Mais au modèle africain ou au modèle américain, je ne l'ai pas fait. Parce que je n'ai pas les moyens, mais j'ai un discours et j'ai des gens qui adhèrent à ce discours.
Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont suffisamment couvertes par rapport aux hommes? Encore une fois, si on compare aux hommes, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une équité dans cette couverture médiatique ou non?
Je pense que là, il n'y a même pas question de parler de équité, Nathalie. Il y a totalement l'absence des femmes. Vous pouvez imaginer à 2-3 mois des élections, il y a des femmes qui n'ont jamais parlé devant un micro. Alors je leur demande, nous sommes un grand pays, où des districts, des circonscriptions, il y a des millions d'individus. Vous ne pouvez pas faire le one-to-one, ce n'est pas possible. Il faut que vous utilisiez les médias. Curieusement, je suis la seule femme qui chaque jour essaye d'être à la télévision et en même temps à la radio et en même temps utiliser les médias sociaux parce que j'ai compris que les élections, cette fois-ci, ça ne va pas seulement se passer à travers les médias traditionnels, mais il y aura aussi les médias sociaux. Et moi, je crains que cette fois-ci, ça soit pire. Je vais vous donner un exemple. Dans une circonscription qu'on appelle Matadi, par exemple, il y a 127 candidats. Et parmi les 127 candidats, il y a 117 hommes. Il y a 10 femmes. Et ces femmes, on ne les voit pas jusque-là, on ne les connaît pas, elles ne battent qu'à campagne, elles ne passent pas à la télévision et on se dit vraiment c'est à qui la fait. Moi je pense que nos journalistes sont assez ouverts. Si la femme là n'a pas compris, alors qu'un homme qu'on appelle à la télévision, il se lève, il fait quoi, fait tout, il s'habille, il part. Mais cette femme là, c'est comme ça que les journalistes se plaignent. Il dit moi je n'aime pas appeler les femmes parce que quand tu vas l'appeler, elle va me dire que non, d'ailleurs je ne peux pas venir aujourd'hui. Donc ce sont des problèmes que nous avons pour déceler. C'est comme ça qu'on appelle, on parle aux femmes, on sensibilise. Le travail est encore grand à faire, mais je pense qu'on y arrivera.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invitée Diane Nininazoué qui est journaliste burundaise et qui travaille au service Afrique centrale à la Voix de l'Amérique. Diane, vous avez entendu Christelle. Christelle qui est à l'origine également journaliste. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit. Il faut utiliser les médias. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider ces femmes?
Alors moi, je crois que la première chose à faire, c'est d'insister, comme tu venais de le dire. Il y a cette intimidité qui est malheureusement toujours, qui habite la femme, pas burundaise seulement, mais la femme africaine. Il ne faut pas aussi oublier que ça ne fait pas très longtemps que la femme a commencé à jouer le rôle, différents rôles dans des partis politiques. Il n'y a pas longtemps au Burundi, les femmes n'allaient pas à l'école. Il n'y a pas longtemps au Burundi, une femme qui osait parler dans des différents meetings était considérée comme une femme qui ose trop. Aussi, ne pas oublier que la culture a été, on a fait longtemps face à cette culture qui disait la femme, c'est à éduquer, c'est pour éduquer les enfants. La politique, c'est pas pour la femme. Revenir à cette culture et de voir maintenant comment marier cette culture qui nous a beaucoup plus mais en dehors d'essais politiques afin que voilà quoi y revenir l'éducation et voilà.
Parole de femme.
La parité en politique au Sénégal est souvent citée en exemple avec le Rwanda. Mais il faut désormais recueillir environ 52 000 signatures pour se présenter à la présidentielle, soit environ 0,8% du corps électoral, ce qui est susceptible de réduire encore les chances des femmes, moins connues que les hommes en politique. J'ai joint à Dakar la première femme à avoir été candidate à une élection présidentielle au Sénégal. C'était en 2012, Amsatou Sow Sidibé, qui sera également candidate en 2019.
Il y a un nouveau système qui a été instauré et qui s'appelle le parrainage. C'est une sorte d'examen de passage qu'il faut réussir pour devenir véritablement candidat ou candidate.
Justement, par rapport à ce parrainage, il faut donc regrouper suffisamment de signatures. Est-ce que...
En moyenne, 60 000 signatures. Nous sommes sur le terrain, nous tentons d'avoir ces signatures. Ce n'est pas toujours évident pour de multiples raisons, mais nous sommes sur le terrain.
Vous êtes à l'origine de la loi sur la parité de 2010. Quel constat faites-vous aujourd'hui au plan politique quant à cette parité au Sénégal ?
Elle est de plus en plus appliquée. Les populations comprennent pour la plupart cette loi. Nous n'avons pas encore la parité absolue, 50%, mais nous sommes proches de cela. La parité, c'est une manifestation d'une certaine démocratie. Une manifestation de l'universalité des droits humains, les droits des femmes étant des droits humains, et c'est une manifestation de la participation effective des femmes à la prise de décision.
Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes, d'une manière générale, que ce soit les femmes politiques, businesswomen, les femmes qui sont de la société civile, on va dire, et autres, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont suffisamment sollicitées par les médias si l'on compare aux hommes ?
Elles sont moins sollicitées. Jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était les hommes qui étaient mis en exergue et on n'avait pas tellement conscience de ce que les femmes devraient être mises au premier plan pour l'intérêt de leur contribution, leur importance capitale dans la société de manière générale. Mais je crois que de plus en plus, bon, les femmes émergent dans les médias. Les femmes journalistes et les femmes de communication, elles aussi prennent de plus en plus conscience de ce qu'elles doivent mettre au centre de la communication, les femmes. Mais la question que je me pose est celle de savoir si le contenu du discours sur les femmes est suffisamment favorable aux femmes. Parce que le contenu du discours importe beaucoup. Il faudrait qu'au niveau de la communication, on sache ce qu'il faut dire pour que la population elle-même soit sensibilisée sur l'importance de la participation des femmes. Et à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont constatés, mais nous sommes encore loin du compte.
Merci beaucoup, Amsatou Sow Sidibé. Je rappelle que vous êtes fondatrice du réseau africain pour la promotion de la femme travailleuse. À très bientôt. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des femmes qui sont moins bien représentées dans les médias qu'elles ne le mériteraient ? Par exemple, si vous pouviez parler de la manifestation des femmes de 2015, ça représentait quoi ? Est-ce qu'elles étaient vraiment au devant de la scène ou est-ce que c'était simplement, bon, voilà, vous êtes médiatisées et après c'est fini ?
Non. En tout cas, ils se sont levés. Ça faisait au moins 2 semaines de manifestation et d'un coup, un matin, ils ont dit, on doit franchir la capitale. On doit franchir la place de l'indépendance. La place de l'indépendance, pour ceux qui connaissent Bujumbura, c'est vraiment le cœur de Bujumbura. C'est au centre-ville. D'un coup, les manifestations se passaient au coin-coin des différents quartiers. Personne n'osait. À chaque fois, ils dispersaient les gens. Mais un bon matin, les femmes se sont dit, on doit franchir la place de l'indépendance. Arrivé là-bas, les policiers ont essayé de les disperser, mais elles ont dit, nous sommes les femmes, on est là pour nos droits, nos différents droits. Et c'était vraiment quelque chose qui était, pour les organisateurs de ces manifestations, c'était quelque chose qui était très symbolique pour eux. Pour une fois, durant les 2 semaines, les femmes ont pu montrer que c'est vrai, on peut faire grand chose en tant que femme.
Entre parenthèses.
Les Nations Unies considèrent que le mariage avant 18 ans est une violation des droits fondamentaux. Même si cette pratique est plus courante dans les pays pauvres, elle reste encore une réalité ici aux États-Unis. En effet, des chercheurs de l'Université de Californie ont trouvé que 78 000 enfants américains âgés de 15 à 17 ans sont mariés ou l'ont été récemment. Voici un reportage d'Elisabeth Lee rendu par Raissa Girondin.
Sarah Tasnim a été forcée de grandir plus vite que les enfants de son âge. À 15 ans, son père l'a donnée en mariage à un homme de 28 ans.
Mon père était très impliqué dans une sorte de culte différent de la religion musulmane. Pour lui, c'est le rôle d'une fille de devenir épouse et mère.
Tasnim est un surnom pour protéger l'identité de notre interlocutrice. Elle a été religieusement mariée à l'homme qui lui a fait quitter sa famille pour rejoindre le domicile conjugal.
Ainsi, nous avons quitté les États-Unis pour aller dans son pays d'origine et revenir 6 mois après, lorsque j'étais enceinte. Et à 16 ans, nous étions mariés à Reno. J'étais vraiment déprimée. Je me souviens juste de voir les gens de mon âge aller à l'école et je voulais simplement être comme eux.
L'expérience de cette adolescente n'est pas unique aux États-Unis. Une étude des données du Bureau du recensement américain montre que de 2010 à 2014, quelque 78 000 enfants américains entre 15 et 17 ans ont été mariés. Jody Eman, de l'Université de Californie à Los Angeles.
C'est un problème parce qu'ils ont tendance à ne jamais finir l'école. 31% d'entre eux finissent dans la pauvreté à l'âge adulte et pour les filles, leur santé est menacée à l'accouchement et leurs enfants aussi ont une santé fragile.
L'étude montre un nombre plus élevé d'enfants d'origine amérindienne ou chinoise qui ont été mariés. Les enfants d'immigrés ont tendance à se marier plus tôt que les enfants nés américains. Jody Eman, de l'Université de Californie.
This is not unique to any one religion. There are child marriages.
Ce n'est pas particulier à une religion. Il y a des mariages d'enfants dans tous les groupes ethniques ou pays d'origine. Les enfants dont les pays viennent de l'Amérique latine, du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud-Est ont un taux plus élevé de mariage précoce. C'est aussi le cas d'enfants dont les parents sont nés aux États-Unis. Ils ont un taux plus élevé que ce qui serait acceptable.
Les chercheurs de Californie espèrent que l'histoire de ces survivants pourra aider le public à mieux prendre conscience des effets des mariages précoces.
Diane, dernière question avant qu'on se quitte. Je pense à Angela Merkel et Theresa May, les deux femmes les plus médiatisées, je pense, au niveau politique dans le monde, hein, surtout Angela Merkel. Ces deux femmes, on a l'habitude de les qualifier de dames de fer, etc. Elles ont une certaine prestance. Vous voyez les personnages, c'est des femmes vraiment très particulières. Est-ce que vous pensez que leur personnalité, bon, elles sont à des postes très importants, on l'a bien compris, mais est-ce que vous pensez que leur personnalité joue aussi sur le fait qu'elles soient vraiment très médiatisées?
Je crois que oui. Je crois que le fait qu'elles s'assument, qu'elles ont su prouver qu'elles peuvent diriger des pays comme l'Allemagne, des pays comme l'Angleterre, il faut le dire, parce que Theresa May, même si c'est pas elle qui dirige, mais quand même, elle est dans une position où c'est elle qui vient toujours en avant. Moi, je crois que le fait qu'elles se sentent imposées comme des femmes de fer, comme elles les appellent, a pu aussi contribuer à cette médiatisation. Des fois aussi, il faut vraiment bien se positionner pour avoir cette place.
Oui. En effet. Ouais. Merci beaucoup, Diane Ninina Azoué, d'avoir participé à cette édition. Le Monde au féminin, un grand merci à Fredner Kayemit et à Wagner Robert, à la production et bien sûr à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.